L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou la très honorable Dr Victoria Panova, vice-recteur de l'Université nationale russe de recherche et chef du Conseil des experts des BRICS en Russie. À l'occasion de la tenue d'un forum sur la coopération scientifique et technique avec l'Afrique dans un monde changeant à Moscou, nous allons faire le point sur cet aspect extrêmement important pour les pays africains qui cherchent à se développer loin de la domination occidentale en s'arrimant à la dynamique ascendante des BRICS. À tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Les relations économiques des BRICS avec les pays africains offrent de nombreuses potentialités en raison des similitudes qui se manifestent sous différents aspects. Il s'agit à la fois des caractéristiques structurelles, d'héritage historique, de problèmes de développement, mais aussi de principes d'égalité, de solidarité, d'intérêt mutuel et de non-ingérence sur lesquels est fondée la coopération Sud-Sud. Avec ces traits communs, il y a de fortes raisons de penser que la coopération BRICS-Afrique peut éviter de reproduire les asymétries Occident-Afrique. En effet, cette coopération émerge comme une nouvelle donne qui change les paramètres de rapprochement. Elle joue désormais un rôle particulièrement important pour négocier non pas l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation occidentale, actuellement en déclin et dans laquelle le continent noir occupe une position subalterne, mais la place qu'elle est potentiellement en mesure d'occuper dans le nouveau monde multipolaire en formation qui s'accélère à vitesse grand V depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine en février 2022. Ces derniers principes ont généralement pour effet l'absence de conditionnalité, contrairement à ce qui est imposé aux Africains par les Occidentaux, notamment les États-Unis et les anciennes puissances coloniales d'Europe, ainsi que leur paravent politique et économique actuel, l'Union européenne. Le processus de 25 ans de liens étroits entre les pays des BRICS et l'Afrique a renouvelé l'importance de cette dernière et commence à reconfigurer de manière fondamentale et permanente les relations internationales du continent africain. Le poids croissant de ces nouveaux partenaires de développement offre des opportunités et pose des défis pour l'Afrique. Dans un contexte d'émergence d'une nouvelle architecture mondiale, la coopération entre les pays des BRICS et l'Afrique s'effectuera-t-elle à l'avantage réciproque de chacun des partenaires? Ou bien les pays BRICS adopteront-ils un comportement finalement proche de celui de l'Occident industrialisé? En d'autres termes, le développement du continent est-il susceptible de se réaliser en coopération avec les pays BRICS plus qu'il ne l'a été avec les partenaires traditionnels occidentaux? Que faut-il faire pour assurer que la coopération entre l'Afrique et les pays BRICS ne reproduira pas le schéma inégal actuel des relations économiques avec le reste du monde? Pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact sur les développements équilibrés du continent africain, on ne peut pas avoir mieux. J'ai donc le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le docteur Victoria Panova, vice-recteur de l'Université nationale russe de recherche et chef du Conseil des experts des BRICS en Russie. Victoria Vladimirovna, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour et merci à m'inviter, enchanté d'être ici et bonjour à tous.
Merci beaucoup, tout l'honneur est pour nous. Bien, alors Washington et le reste de l'Occident qui lui obéit, ça, c'est clair d'ailleurs maintenant, c'est très très clair, utilisent donc leurs règles chaque fois qu'il est nécessaire de justifier des mesures illégitimes, dont les sanctions contre la Russie par exemple, contre ceux qui construisent leur politique conformément au droit international et refusent de suivre leurs intérêts égoïstes. Et puis, ceux qui ne sont pas d'accord sont mis sur des listes noires, selon le principe qui n'est pas avec moi, avec nous et contre nous. Bon. Alors tout le monde se rappelle que de la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon lequel l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde c'est une jungle. Bon. Comme quoi on n'est pas guéri de l'idéologie colonialiste. Bien, alors dans le contexte actuel, ce qui est important pour les Africains ont-ils intérêt à prendre le virage des BRICS en dépit de tous les risques auxquels ils pourraient s'exposer, c'est-à-dire par rapport à leur relation avec l'Occident, et est-ce que l'heure de l'émancipation a-t-elle sonné pour eux?
Ah bon, si on parle de notre coopération entre les BRICS, les pays BRICS et les pays africains, premièrement, pas de risque. Je vois pas de risque du tout. Bien sûr que l'Occident ne veut pas avoir les autres pays, les pays qu'on nous disons pas seulement le Sud global, mais on dit la majorité mondiale. C'est nous. Mondiale. Nous sommes majorité mondiale. Et pour absolument. Ça, je crois que nous pouvons voir ces risques. Mais les BRICS ne sont pas contre quelque chose ou quelqu'un. Ils offrent les pays BRICS offrent l'agenda non caché, l'agenda qui
c'est
peut
très important ça
très important et l'agenda qui peut promouvoir les principes d'égalité entre les pays, c'est très important, le principe de souveraineté et de respect mutuel, c'est aussi très, très important. Et aussi l'agenda qui peut bénéficier tous les côtés de ce processus de coopération. Et parmi ça, on parle de coopération humanitaire, de coopération scientifique, technologique, d'innovation, et on peut en fait enlister beaucoup de sujets où absolument. Les pays de l'Afrique
en tout cas,
profiter de absolument. Sa coopération.
En tout cas, pour les pays africains, donc qui ont connu les affres du colonialisme, ils ont connu les affres du colonialisme et puis les affres du néocolonialisme après leur indépendance, donc qui les a maintenus dans un état de sous-développement. Et donc, pour eux, notamment pour la jeunesse, la formation scientifique de très haut niveau, la formation d'ingénieurs de très haut niveau, de techniciens de très haut niveau, et le transfert de technologies et de savoir-faire industriel est très important. Donc, et c'est de ce point de vue que j'aimerais bien vous poser la question, seconde question. Donc, la semaine dernière, vous avez vous-même présidé une rencontre avec des officiels africains ayant pour objet la coopération scientifique entre la Fédération de Russie et l'Afrique dans un monde changeant. C'est très important, que je crois que cette mention-là est très importante. C'est-à-dire, il me semble que c'est l'idée de faire une remise à jour des connaissances à chaque fois, puisque le monde est en train d'évoluer rapidement. Alors, j'aimerais vous poser la question sur ça. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui a été discuté et décidé comme perspective de travail commun entre les experts russes et africains, de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et technique?
C'était une session stratégique très, très intéressante, très productive, je crois. Et pendant cette session, les experts africains, les ministres, les vice-ministres africains et aussi les experts et fonctionnaires de la Russie étaient abordés sur large gamme des questions, notamment c'était la coopération scientifique et technologique, la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, la mobilité des étudiants et du corps professoral, le transfert de technologies, la création des parcs technologiques. C'était une des demandes de notre homologue africain, c'était un des points très importante de leur vœu.
C'est un peu le même aspect que, par exemple, Skolkovo ou la Silicon Valley.
Le transfert de compétences scientifiques aussi. Élaboration conjointe de programmes éducatifs, formation des cadres hautement qualifiés, exploration et la création de nouveaux domaines scientifiques. Par exemple, un spécifique rôle était accordé aux universités dans le maintien de développement contact entre les Russies, la Russie et l'Afrique. Mmh. Et ainsi, de la nécessité de l'étude mutuelle des cultures, des langues, des traditions de l'Afrique et de la Russie. Mm-hmm. Les participantes ont exprimé leur intérêt en développement des programmes d'études en russe, pas en français ou en anglais, mais aussi en russe dans les universités africaines. Peut-être que ce n'est pas très populaire maintenant, mais si plus des Africains, des jeunes Africains, peut savoir et comprendre russe, c'est aussi possible. On peut venir aussi à l'Université de la Russie. Mais quand même, c'est la route de deux voies. Parce que ça veut dire que, le même temps, on a discuté la nécessité d'introduire des programmes où, dans les universités russes, on enseigne, on donne des programmes des langues africaines, plus de ça.
D'accord.
Des cultures africaines. Parce que c'est important que la jeunesse de nos pays comprenne.
Absolument.
Tous les deux. Et c'est très important.
Je crois que ça, c'est très important parce que ce n'est pas la démarche occidentale qui prend les gens comme ça par le haut. C'est-à-dire, ils débarquent comme s'ils ont une culture supérieure à tout le monde et puis ils dictent les choses seulement.
Donc, absolument.
Là, c'est une autre vision sur laquelle donc on veut travailler ensemble, mais en se connaissant ensemble, en se connaissant les uns les autres.
Absolument. Mais ainsi, il y a un autre aspect très important. En Russie, on est prêt à donner l'enseignement qui est fondamental. À l'Occident, ils donnent des cours qui sont seulement pratiques. Et ils ne peuvent pas avoir la théorie, la stratégie pour leur pays. Ils pensent qu'ils peuvent le faire pour Africains, pour l'Asiatique, pour les Russes. C'est la même chose. Comme, vous savez, par exemple, quand l'Occident parle de la Russie, on parle de l'Afrique et parle de coopération, on parle, contribution de la Russie ou de l'Afrique, c'est ressources naturelles.
C'est ça.
C'est pas ça. Donc, seulement ça.
C'est aussi, j'aimerais bien donc, dire à nos auditeurs que là, c'est extrêmement important. Parce que si l'Afrique ne s'est pas développée, en général tout le tiers-monde d'ailleurs, c'est qu'on a importé un savoir-faire technique, mais sans la méthode de la création et de la découverte dans la culture. C'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens à être des génies, à être des scientifiques qui peuvent découvrir de nouveaux principes physiques, qui peuvent innover, y compris même dans l'art, dans la musique et tout. On apprend aux gens à être des petits techniciens qui appliquent uniquement les règles qui sont dictées par l'Occident.
C'est ça. C'est important. C'est une autre chose qu'on peut échanger et je crois que nous pouvons travailler ensemble dans ce domaine. Par exemple, dans mon université, on a l'Institut d'enseignement qui a une grande expertise dans le domaine de, d'éducation, d'enseignement, de stratégie, de développement, d'enseignement national, parce qu'ils ont consulté beaucoup le gouvernement russe comme expert. Et on peut partager ces connaissances avec nos Africains collègues, si c'était intéressant. Parce que c'est le système qui peut donner la possibilité de penser, de créer à la jeunesse.
Absolument.
C'est le plus important élément.
C'est la garantie d'indépendance, d'ailleurs.
Voilà, voilà.
Et de sérieux aussi de la Russie et des BRICS dans leur stratégie de travail avec les pays africains.
Absolument. Et aussi, nous avons dans cette session le vice-ministre de l'enseignement supérieur et la science de la Russie. Et il a souligné la volonté de soutenir, de continuer à apporter cette assistance à la formation, à avoir plus d'Africains en Russie, aux universités de la Russie, par exemple, de donner des bourses pour des études.
Ouais,
je crois que cette année, tous les pays d'Afrique ont 4 070 places.
C'est-à-dire que ce sont plus de 4000 étudiants africains à qui le gouvernement russe a accordé des bourses pour venir étudier en Russie.
Mais tout ensemble, il y a plus que 35 000 d'étudiants africains qui font ces études.
Juste cette année.
Oui, absolument.
D'accord, juste cette année.
Oui, et voilà, en plus... pendant cette session, on a discuté la présidence de la Russie en BRICS, parce que BRICS, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est ouvert, qui n'est pas exclusif, c'est inclusif. Et pour ça, on a discuté que ça serait très bien si notre homologues africains et nos jeunesses africaines et nos experts africains, nos amis, pouvaient participer dans les événements qui sont prévenus pour notre présidence cette année.
Oui.
C'est forum académique, parce qu'on aussi invite les gens de BRICS Plus, comme
d'accord.
on dit.
Oui.
C'est forum civil. Aussi pour nos jeunesses, l'école internationale de BRICS, c'est de BRICS Plus. C'était aussi le sommet de jeunesse qui prenait lieu pendant notre présidence, grande occasion pour, je ne sais pas si c'est plus que 200, je crois que en plus que 200 de jeunesse qui peuvent venir en Russie et avoir cette grande expérience. Aussi, l'événement qui est sommet au forum des jeunes diplomates de BRICS, de BRICS Plus.
Jeunes diplomates.
Jeunes diplomates, jeunes spécialistes en énergie. C'est aussi
très important pour l'Afrique, ça.
Oui, absolument. Je crois que c'est très important que, en plus de que on a Afrique du Sud qui font partie de BRICS lorsque plus que 10 ans, de 2011. Et maintenant, de cette année, c'est l'Égypte.
Éthiopie. D'accord. Alors, juste pour continuer dans ce sens, alors les relations économiques établies avec les pays des BRICS offrent certainement de nouvelles perspectives, c'est ce que vous venez de développer, mais j'aimerais bien quand même vous approfondissiez ce thème. Alors, ainsi, l'Afrique a besoin de processus de diversification des économies, de leur transformation structurelle, afin de rompre leur dépendance envers les produits et de la rente. Bien. Alors, ma question, Victoria Vladimirovna, le meilleur moyen d'aider l'Afrique dans ce sens est le transfert du savoir scientifique, technologique et industriel. C'est très important pour notamment la jeunesse africaine. Alors, quels sont les projets de votre institution dans cette optique?
Premièrement, je veux répondre un peu plus sur pourquoi le BRICS ne pose pas risque. Un autre exemple. C'est pas seulement que BRICS n'avait pas l'agenda caché.
Oui.
C'est pas ça. Mais aussi, la BRICS promouvoit la situation quand tous les pays qui, en coopération avec BRICS, peuvent voir autre direction aussi. C'est pas le blocage.
Oui.
Il n'y a pas de blocage de coopération avec les États-Unis ou l'Europe. C'est possible et c'est normal. Il ne voit pas contre nous-mêmes, ne voit contre quelqu'un. C'est très important. Et aussi, si on se rappelle l'année dernière, mm-hmm. on a ce grand sommet Russie-Afrique.
Absolument.
Et si vous vous rappelez, c'était, je crois, 48 délégations officielles
de l'Afrique. J'ai assisté à ce sommet.
Plus que 9000 de participants.
Oui.
Et tout ça contre la colossale pression qui était contre les pays africains. Mmh. Et voilà, comme le résultat, on a vu beaucoup de projets signés et beaucoup de résultats. Mmh. Et le plan d'action de 2023-26, mmh. Une chose qui est importante quand même, que tout ça doit être réalisé.
Absolument.
Mais c'est notre question. Maintenant, je vais retourner à le rôle et les projets de l'université HEC. Par exemple, on a un centre d'études africain et ce centre possède une expertise et une capacité d'analyse pour... les différents aspects du marché africain évoluent, les risques financiers, politiques, juridiques sur le continent. Et une des tâches principales de ce centre est de projeter les projets complexes sur la possibilité d'établissement des entreprises russes conjoint avec les Africains sur le continent africain.
D'accord.
Mais aussi, ce centre met en œuvre le programme de transfert de compétences dans le domaine de la numérisation de l'administration publique avec des pays africains. Mm-hmm. En fait, ce programme était... Nous, comme la Russie, nous sommes un des leaders dans le monde.
Absolument. Je rappelle que de ce point de vue de la numérisation, Moscou et Saint-Pétersbourg, ce sont les villes les plus numérisées dans le monde. Elles sont des exemples.
Moscou, mais aussi tout le pays avec Gostoslugi, etc. C'est vraiment un grand progrès. Et ce programme est mis en place en partenariat avec InnoPractica en 2022. Et vise à renforcer les compétences des fonctionnaires de ZE et de moyen niveau dans les pays africains en partageant l'expérience de pays avec un niveau supérieur de développement des services numériques. Mmh. Et comme la Russie, ce centre est l'acteur principal avec InnoPractica du programme de travail avec les leaders du numérique du continent africain. Mmh. Et ce programme comprend de travaux de recherche conjoints et des recherches sur des stratégies à long terme pour le développement des pays partenaires.
Là, vous me donnez donc l'envie de passer à quelque chose de pratique. Je rappelle pour nos auditeurs que le 23 janvier, mm-hmm. le géant nucléaire russe Rosatom mm-hmm. a procédé au coulage de béton du 4e réacteur de la centrale nucléaire d'Azabaa en Égypte. Et puis le président Poutine a indiqué que la centrale nucléaire d'Azabaa représente le projet le plus important entre l'Égypte et la Russie. Mais il rajoute, nous espérons que l'Égypte participera à plus de 200 événements au sein du BRICS, donc dans l'avenir. Bien, alors... Victoria Vladimirovna, au-delà de la production électrique, parce que ce qui est important, parce que là, c'est la production de l'énergie, mais le nucléaire civil en particulier, peut-il être une locomotive de développement pour le reste de l'économie égyptienne, notamment dans les secteurs de la science, des hautes technologies et même de la technologie spatiale? Et que dire à certains donc, médias occidentaux qui voient d'un mauvais œil cette coopération avec la Russie et plus tard avec les BRICS, notamment la Chine, l'Inde et mm-hmm. l'Iran. Donc je rappelle que la Russie, avec ce projet, est le premier pays à donner une technologie de pointe extrêmement sensible à un pays africain. Mm-hmm. Et le président Poutine, à chaque rencontre avec les pays africains, il a dit que la Russie était prête à développer le nucléaire civil.
Mais oui, premièrement, si on parle de nucléaire civil, on dit que que c'est aussi une plus grande question de transition d'énergie, oui. Juste. Mmh. Et dans les intérêts nationaux de chaque pays.
Oui.
C'est très important parce que ce n'est pas la technologie verte dans le sens occidentaux qui pousse seulement le grand gap entre les pays plus riches d'Occident et le reste.
Oui.
Et la civile nucléaire est un des éléments de cette transition juste quand les pays peuvent
le
prendre...
Le nucléaire, il est décarboné.
Absolument.
C'est la technologie qui donne le moins de carbone.
Absolument.
Et puis, il ouvre des horizons énormes pour un développement de l'économie, oui.
Et comme ça, sans doute, cette construction des centrales nucléaires apportera à l'Égypte une source d'énergie propre et presque inépuisable. Un projet aussi vaste et hautement technologique peut toujours servir de catalyser au développement de nombreux domaines scientifiques et économiques en Égypte. L'énergie nucléaire civile est utilisée pas seulement en électricité, il y a beaucoup de domaines. Par exemple,
Le dessalement de l'eau de mer.
Dessalement de l'eau de mer, oui, mais comme ça aussi, largement utilisé dans les médecines pour le diagnostic et le traitement de certaines maladies, cancer par exemple. Oui. Également utilisé pour créer différents types de lasers qui peuvent accomplir une palette de tâches comme tant sur la Terre ou dans l'espace, de la transmission de signaux ou à la découpe de métaux. De plus, la construction de centrales nucléaires peut stimuler le développement de l'énergie hydrogène, ainsi que l'exploitation de la production de matériaux de construction d'autres technologies, alliage, composite, superconducteur, voilà, comme ça.
Et ça, je rappelle que justement, la politique, soi-disant, de la transition verte qui est promue par les Occidentaux, et ils veulent faire avaler ça aux pays africains pour utiliser le solaire et l'éolien pour produire de l'hydrogène vert. C'est un suicide économique total.
Absolument. Et quand vous parlez de l'Occident qui a eu les opinions négatives sur notre projet ou aux autres projets qui n'ont pas occidentaux, c'est normal. C'est prévisible.
Absolument.
Parce que la construction de El Daba est un projet stratégique et entre eux, entre autres choses, ça va réduire la dépendance de l'Égypte extérieure à l'égard des pays occidentaux. En cas de succès de ce projet, et je suis sûre du succès de ce projet, l'Égypte pourra renforcer sa souveraineté énergétique. Ainsi que la direction de sa politique extérieure dans son ensemble. Et c'est très important. Et bien sûr, pour ça, c'est à vue négativement par l'Ouest. Mais c'est la réalité objective du système contemporain des relations internationales qui tend de plus en plus vers la multipolarité. Mais je veux vous rappeler de notre cas. C'était l'Inde. Je crois plus que 10 ans, il y a plus que 10 ans, c'était le projet de centrale nucléaire à Kudankulam.
Oui. Ils ont fait bouger
le
mouvement vert pour saboter tout ça.
Oui, et des ordres entre les organisations non gouvernementales. Et en fait, après ça, le gouvernement de l'Inde a introduit une nouvelle loi qui a mis sous contrôle du gouvernement le financier étranger. Pour leur ONG, parce qu'on a compris parce que c'était instigé par l'Ouest et les forces extérieures. Voilà, c'est la même pratique tout le temps quand quelques pays veulent devenir plus indépendants, souverains. C'est pas un bon projet
Et là, je rappelle que que beaucoup de pays, d'autres pays, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger qui sont intéressés, ils ont signé des mémorandums d'entente. Il y a aussi l'Algérie, dont le dernier forum de l'énergie nucléaire à Sochi cette semaine, et qui a signé aussi un mémorandum pour la coopération nucléaire avec la Russie. Bien, alors ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Victoria Vladimirovna Panova, pour la seconde partie de notre émission. À tout de suite.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louage, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Victoria Vladimirovna Panova, vice-recteur de l'Université nationale russe de recherche et chef du conseil des experts des BRICS en Russie. Victoria Vladimirovna, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien. Alors, pour continuer par rapport à ce que vous avez développé, qui est, c'est très très important, et j'avoue que il y a un décalage énorme avec ce qu'a été la politique occidentale néocolonialiste en Afrique. Alors, la Russie financera justement, pour reprendre sur le dernier point, parce que il faut bien parler de choses pratiques qui se réalisent, sinon on est juste dans la démagogie. Alors, la Russie financera environ 85% du coût de construction du projet nucléaire d'Adaba, donc qui va fournir 50% de l'électricité à l'Égypte. Et je rappelle encore une fois que c'est la première fois qu'un pays africain reçoit, à part l'Afrique du Sud qui a fait ça par elle-même, reçoit cette technologie. Et donc c'est 50% de l'électricité. Et donc, qu'en pensez-vous? Et est-ce que ça a été déterminant dans le processus de prise de cette décision par les autorités égyptiennes? Et puis, le plus important aussi, beaucoup de pays africains seraient intéressés par ce protocole de coopération avec la Russie dans le domaine nucléaire.
Ah, mais oui, quand même, il y avait pendant l'année dernière, pendant ce sommet Russie-Afrique, il y avait beaucoup de négociations entre société russe Rosatom et des ministères et d'autres agences gouvernementales des pays africains, des projets. Et voilà, il y a un grand potentiel économique parce que les centrales nucléaires, on peut donner l'extra potentiel pour la croissance. Déjà, les pays africains sont parmi les économies avec la croissance la plus rapide au monde. Et ça peut contribuer de rester en place et aussi d'être plus... parce que la base est assez... pas grand. Et pour ça, c'est pour... rester cette base comme ce développement comme très important. En fait, Russie aussi et c'est tendance le conformement aux politiques étrangères de la convention de Fédération de Russie qui était approuvée en 2023, le renforcement d'interactions russo-africaines et dans les domaines nucléaires ou l'autre de haute technologie, c'est une des priorités de notre pays. Le sommet Russie-Afrique a posé ça en cours et avant tout, Russie est prête à apporter tout son soutien pour faire d'Afrique, dire que, comme on dit dans le document, centre de développement mondial distinctif et influent, renforçant ainsi sa souveraineté et les affaires mondiales. Et pour ça, il n'y avait pas seulement Rosatom qui était dans la négociation en Afrique, c'était les compagnies comme Gazprom, comme Lukoil, Alrosa, et il y a des projets qui sont déjà en réalisation.
Moi, j'ai assisté, et je crois que c'était exactement comme en 2019, le président Poutine a rappelé exactement la même chose en disant que la Russie était ouverte, pas seulement à vendre les technologies et tout, mais à les transférer, à former les gens. Il n'y a aucune exclusion.
Absolument.
L'essentiel, que les choses soient faites conformément au droit international, par exemple pour le nucléaire, il faut que ça soit contrôlé par l'AEA, l'Agence à l'énergie atomique, internationale énergie atomique.
Mais ce n'est pas seulement l'énergie atomique, c'est c'est vrai pour tous les domaines scientifiques et techniques et d'innovation. Et la Russie est prête à élargir cette coopération avec des pays d'Afrique et on a déjà pris des mesures concrètes dans cette direction. Mm-hmm. Par exemple, il y a des recherches conjointes avec les participations de des scientifiques et spécialistes africains. Nous soutenons activement la coopération dans le domaine de recherche spatiale et de l'utilisation des technologies spatiales pour résoudre les problèmes de développement. Et aussi, il y a maintenant 5 projets en cours qui sont sélectionnés à la suite d'un concours et financés par la Russie, par le ministère d'enseignement supérieur et sciences et de recherche, oui. Ils sont réalisés par des organisations russes en collaboration des partenaires égyptiennes, éthiopiennes, zimbabwiennes et guinéennes. Et il y aura un nouveau concours prévu pour mai de cette année. Voilà, je crois qu'il faut que les organisations africaines font partie de ce concours et prennent partie.
Dans cette, en envoyant des jeunes se former en Russie et participer à ce concours pour avoir.
Et pour ça, on peut avoir, je crois qu'il faut avoir plus de travail, d'échanges.
D'échanges et de mobilité.
Absolument, pas seulement sous le niveau de jeunesse, mais aussi professeurs, experts, parce que recherche. Scientifique, parce que c'est ce niveau, les contacts entre les humains, c'est le plus important et ça que peut prendre en mise en œuvre beaucoup plus de projets. Par exemple, si on parle, vous êtes une vous êtes en matière de physique, physiciste, oui. Moi, je suis de relations internationales. Mais quand même, si les personnes qui sont des matières, des éducations qui sont similaires, on peut venir au projet très génial, unique, et qui peut donner beaucoup de bénéfices pour les pays. Pas seulement les pays africains, pour la Russie et l'Afrique.
C'est-à-dire développer des choses vraiment nouveaux, des projets nouveaux entre les deux pays qui sera bénéfique pour les deux pays.
Absolument. Et par exemple, le concours de notre ministère est seulement un concours, il y a beaucoup plus. Dans le domaine de BRICS, il y a un autre concours. Et je crois que les pays BRICS sont BRICS Plus. Les pays africains, on peut rejoindre. Pas seulement l'Égypte, l'Afrique du Sud ou par exemple ou Éthiopie, tout le monde peut rejoindre dans ce concours pour prendre plus de bénéfices. La même chose dans le niveau pas seulement de l'État mais aussi l'université. Par exemple, mon université ici, on a des laboratoires miroirs. Et c'est-à-dire que les recherches, les experts, les scientifiques de nos universités peuvent avoir partenariat avec l'université africaine. Quel pays, ça n'importe quoi, ça dépend du désir de l'autre côté. Et ça sera financé leur partie de l'université. Il y a un programme spécial pour soutenir les programmes de ce type. Voilà, c'est-à-dire que pas seulement l'État avoir les projets concrets, mais aussi les universités, comme HEC aussi.
Donc, et par rapport à ça, Victoria Vladimirovna, il y a le chef de la diplomatie russe, M. Sergueï Lavrov, qui a parlé, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la Russie, c'est elle qui préside le sommet, qui préside les BRICS et qui va organiser à Kazan en octobre. Le nouveau sommet. Alors, il a parlé d'un... c'est-à-dire, en plus de ceux qui sont membres de, de l'institution qui est membre, qui a 10 membres actuellement, et il a parlé de pays qui seraient des partenaires. Une affaire de 30 pays, c'est-à-dire comme... même s'ils ne sont pas membres, mais c'est-à-dire que ce sont des pays avec lesquels les BRICS vont avoir des partenariats renforcés, privilégiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît?
Voilà. Je crois que le critérium, ce n'est pas annoncé déjà, mais quand même... c'est une chose de quoi on a discuté précédemment. C'est le fait que BRICS est un mécanisme inclusif.
Inclusif, oui, absolument.
Et il faut que, il faut comprendre que les pays BRICS, tous les 10, ils ne sont pas comme quelqu'un qui sont les deux ou plus grands que les autres. Ils sont, et c'est le principe commun pour tous les BRICS, que nous sommes tous égaux. Et c'est le fondamental principe pour inviter les autres pays qui, je crois, qui partagent les mêmes principes d'approche au à relations internationales, aux souveraineté, au respect mutuel, aux principes de développement juste. Et je crois que je ne sais pas qui sera les...
Mais en tous les cas, moi, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, que pour devenir membre, ça c'est normal, il y a des critères, d'intégration de l'économie, de développement. Mais cet aspect-là de pays partenaires des BRICS, c'est en fait c'est le premier étape pour rejoindre les BRICS par la suite, quand il y a le développement nécessaire et les conditions qui sont remplies.
Pas nécessaire, mais ce qui était important et que il est important de faire BRICS effectuel. C'est effectif maintenant. Mais s'il y a beaucoup de plus de membres nouveaux, ça peut constituer des problèmes. Et pour ça, c'est très important que des projets qui ont déjà une réalisation, qu'ils restent effectifs.
D'accord.
C'est très important. Et pour ça, quand on a des autres invités, on peut tester s'ils peuvent être partie de un de projet, deux de projet, ou de quelques mécanismes de BRICS, pas BRICS en tous. Peut-être où on voit le plus résultat. Par exemple, c'était déjà la situation avec la nouvelle banque de développement de BRICS, quand les pays qui étaient membres n'étaient pas membres de BRICS. Et c'est normal. Et je crois que ça peut être le mieux voie pour BRICS, parce que c'est une espérance dernière du monde. Oui, pour égalité, pour justice. Et pour ça, il faut que BRICS reste effectif et on ne commence pas le processus où les pays ne comprennent pas comment ils doivent progresser et qui partagent les principes de BRICS. Et pour ça, je crois qu'ils peuvent être le parti de quelques projets, mais ils peuvent s'intégrer quand il y a compréhension complète.
Ce sera une étape après.
Absolument, absolument. Voilà. C'est très important. C'est vraiment, je crois que c'est la dernière espérance du monde.
D'accord. Avec les BRICS+, donc... La géopolitique mondiale est en train de changer complètement vers un monde multipolaire. Donc, une aide au développement donc, qui, depuis des années, n'a fait qu'accroître les problèmes de l'Afrique, défaillance de beaucoup d'États, corruption structurelle, famine, guerre civile et ethnique, ce qui a fait que cette aide au développement s'est, fur et à mesure, transformée en aide militaire. Je crois que c'était ça, la stratégie, tout le monde le comprend actuellement. Bien, alors, la coopération que vous avez lancée dans le cadre des BRICS, pourrait-elle servir de levier pour un changement de paradigme dans les relations, un paradigme radical dans les pays africains, notamment auprès des jeunes, qui aspirent à relever le défi du développement avec des partenaires fiables et sûrs?
Ah, mais oui. C'est une réponse très courte, je crois, mais quand même, vraiment, les règles de coopération et de communication entre les pays BRICS et entre les pays BRICS et autre monde, ils sont de paradigmes très différents de ce que nous témoignons maintenant de l'Occident et le monde entier. Et pour ça, je crois que les projets qui peuvent être suggérés sous le domaine de BRICS et l'idéologie.
L'idéologie, ouais.
C'est vraiment... quelque chose qui peut former la base des relations internationales et de l'ordre international et changer le paradigme de développement en tous ces aspects. Et on voit que BRICS déjà par exemple, si on voit la stratégie de partenariat de l'économique entre BRICS, on voit que ça a déjà construit sur les principes très différents de ce que on voit dans le monde. Oui. Et pour ça, on a vu que ça contribuait et bénéficie beaucoup. Les BRICS. Mais c'est le même principe que les BRICS continuent d'avoir avec les autres pays, avec les pays de majorité mondiale. Et par exemple, si on parle de la système financière, qui est utilisé par l'Ouest pour leur bénéfice.
Comme une arme de guerre.
Absolument. C'est impossible. Et si vous vous rappelez, il y a 10 ans, on a dit, oh, SWIFT, c'est pas possible. SWIFT, c'est pour tout. C'est neutral. Mmh. Et maintenant, on voit que ce n'est pas le cas.
Ouais.
Et de l'art est le vrai arme. Mmh. Et ça, la même situation avec le sport, avec la culture,
ouais.
avec tous les aspects de notre vie. Et comme ça, BRICS peut changer le paradigme. Si, par exemple, on a du succès avec notre projet d'introduire alternative de système financier au mécanisme de finance, d'échange entre les finances nationales, ça peut être un très grand pas pour...
En tout cas, ça sera le pas le plus important, disons le décisif.
Absolument.
Décisif, c'est-à-dire de sortir du diktat du dollar et de l'euro, enfin, mais du dollar certainement le plus important. Et c'est le fait, c'est justement libérer tous les pays et de leur donner
Absolument.
Les moyens de se développer.
Absolument. Un autre cas, exemple, peut être... technologie. Et par exemple, BRICS, ils ont commencé ce projet, c'était le président du Brésil, et c'était l'architecture scientifique, technologie et innovation. Et dans ce domaine, il y a 13 groupes des plus actuels domaines scientifique qui peut aider les pays qui sont partis de ce projet commun d'être indépendants et souverains technologiquement. Et je crois que c'est... Et je suis sûre que l'idéologie de BRICS offre ces résultats au tout le monde et aux pays africains aussi. C'est aussi l'échange de paradigme.
Absolument.
Total.
En tout cas, pour les Africains, c'est-à-dire en tout cas pour les Africains qui ont compris très bien le rôle du FMI, le rôle de la Banque mondiale
Absolument.
Et par la suite de l'OMC, qui sont en réalité des outils de domination occidentale et américaine, ils comprennent aussi que ce qui est derrière ça, c'est le dollar. Et derrière le dollar aussi, vous savez qu'il y a 16 pays qui sont dans la zone franc CFA,
qui était
une monnaie coloniale, une monnaie de vol. Le système CFA, c'est un système de vol. Et donc, le fait que, justement, de sortir de ça, que les BRICS appuient et aident les pays, vont aider les pays à sortir de ça et à faire valoir leur monnaie nationale, pour les Africains, c'est clair que c'est le meilleur moyen pour aller asseoir la souveraineté et devenir indépendant.
Absolument.
Bien. Alors, Victoria Vladimirovna, une dernière question avant de conclure cet institut, je voudrais vous poser une question, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup la jeunesse africaine. Alors, outre l'Égypte et d'autres pays africains donc ont signé ces dernières années des accords de coopération dans le nucléaire civil avec la Russie, donc le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso. Cependant, il y a un autre domaine scientifique et technologique qui fait rêver la jeunesse africaine plus que toute autre chose. Non seulement que c'est un moyen de développement, mais c'est aussi, disons, le symbole d'une libération et d'une sortie du sous-développement, et ainsi de suite. Donc la Russie est pionnière, et c'est la conquête spatiale. Est-ce qu'on peut avoir une industrie spatiale en Afrique? Et ces grandes figures emblématiques, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, le premier homme et la première femme à sortir dans l'espace dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, y a-t-il des programmes de coopération spatiale avec l'Afrique, amis dans tous les autres domaines qui s'y rapportent?
Ah bon, Mais bien sûr, et c'est très bien que vous avez vous rappelez le Gagarine, parce que si on regarde maintenant comment l'Occident veut effacer l'histoire et effacer que Gagarine était le premier homme dans l'espace et que l'Union soviétique était le leader. Et maintenant, la Russie est un des leaders mondiaux dans le domaine spatial. Et bien sûr, nous possédons une vaste expérience d'ex-coopération internationale, et c'est avec beaucoup de pays du monde, et les pays africains ne sont pas l'exception de ça.
D'accord.
Et il y a plusieurs de projets réussis qui sont menés en collaboration avec des homologues africains. Et par exemple, un événement marquant de cette coopération est la coopération entre Moscou et Caïr. Mm-hmm. Dans le domaine spatial,
Égypte.
Spatial, quand était satellite Égypte SATA, était lancé en, je crois, en 2019.
Mm-hmm.
Oui. Et il a été fabriqué dans le cadre de l'Agence nationale égyptienne de télédétection.
Mm-hmm.
Et il convient de noter que le programme spatial de l'Égypte est l'un des projets les plus ambitieux du gouvernement égyptien, mais pas seulement égyptien, parce que c'est aussi le grand pas pour l'Afrique de total.
Mm-hmm.
Et l'accomplissement de ce projet permettrait l'augmentation du poids, comme j'ai dit, pas seulement de l'Égypte, mais de l'Afrique, dans le domaine de la recherche scientifique, de l'innovation. Je sais que ce pays veut devenir un des principaux pays de centre spatial panafricain. Et si je crois que il y a en cours de création et aussi de ce centre un siège de au Caïr.
Okay.
Et c'était panafricain. Okay. Voilà, pour ça je dis que c'est pour tout.
Ouais. Et je rappelle aussi que pour finir avec cette émission, très riche en informations et en analyses, c'est que la Russie aussi, Roscosmos, a signé un accord avec une entreprise privée tunisienne pour créer une constellation de 30 satellites. L'entreprise s'appelle Telnet, qui a déjà envoyé le premier satellite dans l'espace. Et pour envoyer aussi, il y a le projet d'envoyer la première femme arabe dans l'espace.
Ah, voilà. Mais aussi la Sud-Afrique, l'année dernière aussi, ils ont rejoint le projet russo-chinois de station internationale lunaire. C'est un autre cas. Aussi, lors du sommet, les années dernières, Roscosmos a mené des négociations avec, je crois, presque 10 pays africains, comme pas seulement l'Égypte, mais Zimbabwe, l'Ouganda, Afrique du Sud, Djibouti. Et voilà. Et c'est pas seulement... il y a beaucoup de sujets qu'on peut discuter là-bas, et c'est, y compris la télédétection de la Terre et la création d'un cadre juridique pour la coopération, et aussi pour formation des spécialistes propres pour l'espace. Et tout cela témoigne d'intérêts concrets que des pays africains ont pour la Russie, pour les projets dans l'espace, dans le domaine nucléaire, biotechnologie,
l'agriculture, l'agroalimentaire.
Oui, c'est ce que je voulais dire, sécurité alimentaire, agriculture. C'est très important, et c'est des domaines où la Russie peut donner son expertise, peuvent partager son expertise, et prête de partager son... C'est très important. Il y a beaucoup de plus de sujets, et je crois que c'est la voie qu'il faut continuer, parce qu'il y avait des pauses de la coopération. Je suis très, très ravie que maintenant, c'est recommencé de nouveau. Et je suis sûre que tout ensemble, on a de la future magnifique pour nous tous, pour à l'Afrique, pour la Russie, pour le BRICS, pour la majorité mondiale.
Merci beaucoup.
Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Victoria Vladimirovna, je vous remercie vraiment pour cet entretien et pour l'effort que vous avez fait. Je rappelle que Madame Victoria Vladimirovna, ça fait 15 ans qu'elle n'a pas parlé français. Et je la remercie vraiment pour l'effort fastidieux qu'elle vient d'accomplir. J'espère que vous retrouvez dans les quelques semaines à venir pour un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très bientôt.
Merci à vous.
C'était le docteur Victoria Vladimirovna Panova, vice-recteur de l'Université nationale russe de recherche et chef du Conseil des experts des BRICS en Russie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre mission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.